parole de la vie éternelle. Sont adressés à moi par mon Sauveur, paroles de paix et de consolation qui apportent au cœur le repos. Seigneur, tu as des paroles de vie, tu as des paroles de joie, paroles de rafraîchissement éternel, paroles pleines de gloire. Les mers, parole du plein salut. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez. Seigneur, tu as des paroles de la vie. Seigneur, tu as des paroles de joie. Tu as des paroles de rafraîchissement éternel et pleines de gloire. Puissant. Fortifie la marche de la foi. Parole de la demeure éternelle qui élève le pèlerin. Seigneur, tu as les paroles de la vie, paroles de joie. Éternel, parole pleine de gloire, parole de trésor et de couronne, parole qui parle de vêtements éclatants, blancs, parole de l'agneau vainqueur. Couronné avec honneur et gloire. Où sont les instruments? Où sont le nouveau cantique? Nous voulons encore l'entendre. Et si nous avons du temps, nous pouvons chanter un chœur. Oui, ce serait bien si nous pouvions encore chanter le cantique que vous aviez chanté hier. Oui. Mais les instruments ne sont pas sur place. On le chante ensemble de tout notre cœur. Allume ton feu, Seigneur, dans mon cœur. Qu'il puisse brûler. Oh, mon bien-aimé Sauveur, ce que je suis et ce que j'ai, que tout soit à toi. Entre tes mains, fais-moi fort. Source de vie et source de joie. Tu ôtes l'obscurité de mon âme et introduis ta lumière. Tu exauces mes prières, le secours de tout tourment. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Que tu puisses me garder quand Satan me menace. Tu es le Sauveur, Seigneur, au-dessus du péché et de la mort. Tu brilles pour moi comme une lumière dans ce monde obscur et ténébreux. Seigneur, demeure avec moi. Ne sois jamais loin de moi. Source de vie et source de joie. Introduis de mon âme ta lumière. Tu exauces ma prière, mes secours des tourments, mes secours des tourments. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, bientôt la lumière éternelle apparaîtra. Réjouis-toi, mon âme, et ne te décourage pas. Que les plaintes se taisent quand le cantique retentit. Foi joyeuse, notre Seigneur revient bientôt. Viens encore aujourd'hui, âme, ne dis pas, demain ce sera des meilleurs moments pour venir. L'Esprit t'avertit, le Seigneur t'appelle aujourd'hui, dépêche-toi et viens encore aujourd'hui. Viens encore aujourd'hui. Aujourd'hui, heureux. Viens, tout est déjà préparé. Viens. Honore encore aujourd'hui. Viens encore aujourd'hui. Ouvre ton cœur au Seigneur. Accepte-le. Accepte tout ce qu'il a fait pour toi. Jésus veut prendre toutes tes douleurs. Glorieux aujourd'hui. Expérimente la grâce de Dieu. Toutes choses sont déjà préparées. Regarde. Viens encore aujourd'hui aux noces. Voici, je viens, bien-aimé Seigneur, je réponds à ton appel. Je voudrais lire une parole avant la prière, une parole très connue de notre Seigneur qu'il a prononcée, qu'il a adressée à ses disciples autrefois, mais cette parole reste valable aussi jusqu'à dans nos jours. C'est pour cette raison que nous voulons la lire dans Jean 15. Ce sont des paroles très merveilleuses du Seigneur. Il dit ici, peut-être que nous pourrons nous le faire pendant que nous lisons la parole de Dieu. Oui. Ici, le Seigneur dit les choses suivantes à partir du verset 1 tout de suite. Dans Jean 15, le premier verset, je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oui, oui. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Oui, il doit habiter en nous. Demeurez en moi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au fruit, au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ce sont des paroles très sérieuses. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien du tout. Ça, nous le savons de tout notre cœur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, ça, il a promis. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jusqu'ici, cette parole merveilleuse. Cela continue encore, mais vous pouvez tous lire toutes ces paroles, elles nous sont connues. Je pense que ces paroles, nous devons les recevoir de tout notre cœur et demeurer en lui et lui en nous. Et c'est ainsi que tout sera bien. Prions, Père Céleste, nous te remercions de la plénitude de notre cœur pour ta sainte et précieuse parole, Seigneur. Car autrefois, tu as parlé et ta parole a conservé la même valeur jusqu'à dans nos jours, Seigneur. Nous en sommes conscients que nous avons besoin de toi. Chaque jour, chaque moment, chaque instant, chaque heure, chaque minute, nous devons t'avoir. Bénis-nous maintenant ce matin. Bénis ton peuple qui est venu de loin et de près, Seigneur. Je te demande, dans ton merveilleux nom glorieux de Jésus, sois avec nous. Alléluia. Loué et remercié soit ton merveilleux nom. Alléluia. Amen. 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 Dans le prophète Ésaïe, il est déjà écrit que toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et que Dieu soit remercié, nous pouvons le voir. Aujourd'hui encore, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Nous venons, n'est-ce pas, pour écouter la parole de Dieu, et cela de loin et de près, de l'est et de l'ouest, du sud au nord. Cela m'a réellement rappelé, m'a fait penser à Actes des Apôtres chapitre 2, alors que lors du fondement de l'Église, de l'effusion de cet esprit, 16 différentes nations étaient rassemblées, on peut le lire. Elles sont tous, ils sont donc nommés tous selon leur nationalité. Ici dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue natale. Partes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, et cela continue et continue. Ça, c'était au commencement. Et Dieu, c'est ainsi que nous l'avons souvent répété, avait donné à Abraham la promesse que en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et c'est ainsi que Dieu le Seigneur, à la fin du temps de la grâce, appelle une église épouse de tous les peuples, les langues et les nations à sortir. Je ne sais pas. Et ça, je le dis avec un cœur reconnaissant. Je ne sais pas si un deuxième endroit dans notre pays, en Europe, existe, où des frères et des sœurs de l'extrême nord, de la Suède, de la Finlande, de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique, de l'Hollande et de l'Afrique, de l'Asie sont rassemblés. Dieu a lié à cela un objectif et j'espère que réellement tous nous comprenons que ce n'est pas un homme mais que c'est Dieu qui fait son œuvre et qui ainsi apporte son Église à l'achèvement. Nous avons les salutations du frère Manfred de Santiago. Nous avons les salutations du frère Hervé de Lyon. Nous avons les salutations du frère Pino Davi de Palermo. Nous avons les salutations de Kinshasa. Ce sont des salutations qui viennent de partout, des frères qui ont appelé. Nous avons les salutations de la Moldavie. Le frère Schmitt nous les a déjà transmis. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu fait grâce. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons reconnaître, de ce que nous avons reconnu le temps et le message. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont ici de l'Amérique du Sud. C'est merveilleux. Ils viennent du sud et du nord, ils viennent réellement de partout. Ensuite, nous avons chanté un cantique que le Seigneur veut, puisse allumer son feu en nous. Et hier déjà, j'ai mentionné que Dieu a accordé beaucoup de grâce lors du dernier voyage. J'ai entrepris aussi beaucoup de kilomètres en voiture pour visiter des assemblées et apporter la parole du Seigneur. Aussi en Guadeloupe, nous avons, n'est-ce pas, entrepris beaucoup de kilomètres par les vallées et les montagnes pour apporter la merveilleuse parole du Seigneur aussi à El Salvador. Et nous regardons simplement en arrière, même jusqu'au point culminant, au Lima. Là-bas, nous avons des émissions de télévision et celui qui est directeur des émissions est lié avec le groupe de Billy Graham, mais depuis quelque temps, il lit nos livres. Et j'avais eu une interview le lundi matin et il tenait mon livre dans sa main, La Grande Tragédie, en langue espagnole. Et il me disait, frère Frank, nous t'avons invité pour parler à notre peuple, à toute la nation. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Et à la fin de l'interview, cet homme, devant tous, a dit, frère Frank, je remercie Dieu pour ta vie. Et il a encore ajouté une phrase et il a dit, je remercie Dieu pour ton ministère. Dieu voulant, nous allons aussi là-bas maintenant avoir des émissions en langue anglaise, en anglais. Et pour le pays et les pays voisins, vous savez, nous faisons tout pour racheter le temps et pour propager le dernier message qui, en tant qu'appel, doit aller dans le monde entier. Et à cela appartient, bien sûr, que nous puissions, n'est-ce pas, utiliser toutes les possibilités qui existent. Toutes les possibilités. Nous avons des émissions de télévision à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Nous avons des émissions de télévision à Sydney, en Australie. Nous avons des émissions de télévision à Ohio, aux États-Unis. Nous avons des émissions de télévision à Red Springs, Canada. Tout le Canada, les 12, on peut atteindre donc plusieurs kilomètres d'un bout à l'autre. Nous avons où aussi en Russie, Kazakhstan, nous avons des réunions des émissions de télévision. Vraiment, nous faisons tout ce qui est possible pour réellement atteindre le peuple de Dieu sur toute la terre. Et je remercie Dieu, et je vous remercie sincèrement de tout mon cœur de ce que il nous a donné, les possibilités et les moyens, les deux, les possibilités et les moyens pour, donc les deux, pour pouvoir porter ce message merveilleux. Et nous regardons en arrière à beaucoup d'années dans lesquelles Dieu le Seigneur a béni et les choses les meilleures viennent encore. Les choses les meilleures viennent encore. Viendront encore. Et bien, mes frères et sœurs, hier aussi, vous avez, n'est-ce pas, constaté mon enthousiasme, ma joie à cause des premières prédications de frère Branham que j'ai entendues, que j'ai écoutées des années 40 déjà, c'était vraiment une action surnaturelle et puissante de Dieu ici sur terre, un appel direct, un envoi direct en tant que l'accomplissement des Écritures. Et je voulais aussi montrer, et il y en a qui se sont étonnés, dans ce petit appareil, j'ai toutes les 1159 prédications de Frère Branham et je les écoute et il y en a qui ne pouvaient pas croire que je peux utiliser la technique. Ils se sont demandé, mais est-ce que Frère Frank pourra utiliser un tel appareil? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout fonctionne de manière merveilleuse. Et avec cela, je lis cette pensée que ce n'est pas seulement que nous regardons en arrière à ce que Dieu a fait, mais que nous sommes dans une grande attente d'être trouvés en relation avec ce que Dieu nous a promis et en relation avec ce qui est déjà en train de s'accomplir. J'ai déjà mentionné que j'étais tellement touché et saisi de ce que j'ai entendu des années depuis 48, aussi 47, ensuite 49, de ce que j'ai entendu de ces années. La puissance de Dieu dans le salut, la guérison et la délivrance a été des milliers de fois et encore une fois des milliers de fois manifesté. Et ainsi, l'attention des hommes a été attirée et sur ce que Dieu avait à nous dire. Ensuite, je me suis référé à Jean 21, où il est écrit au verset 24 et 25, dans les derniers versets du chapitre de l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, à partir du verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. C'est bien. Notre Seigneur est le même, est resté le même hier, aujourd'hui et dans toute l'éternité. Nous voulons simplement attendre tout de Dieu. Nous avons dans la parole d'introduction entendu, nous sommes des serments liés au CEP. Les serments ont seulement le devoir, n'est-ce pas, de manifester dans le fruit la vie du CEP. Le fruit du CEP est, n'est-ce pas, visible dans les serments. C'est là que son fruit est manifesté. Et notre Seigneur dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Alors ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Alors c'est la vie dans le cep qui dans les serments se manifeste, est manifestée. Donc nous nous remettons entièrement entre les mains de Dieu et c'est lui qui manifestera et produira toutes choses. Ensuite, par le téléphone, par un appel téléphonique, une parole, un verset de Josué, le premier chapitre, ici le verset 9 m'a été donné, Josué chapitre 1, le verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» En allemand, cette obligation. « Fortifie-toi et prends courage. » Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu puisse bénir la bien-aimée sœur qui m'a donné ce verset dans Deutéronome chapitre 34 au verset 10, il est écrit, Deutéronome chapitre 34 au verset 10, il est écrit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Ce que Dieu le Seigneur avait dit, ce qui avait été donné au peuple d'Israël en tant que loi et instruction à suivre était dans l'arche de l'Alliance, et l'arche de l'Alliance a été portée par, a été placée sur l'épaule des sacrificateurs, et Dieu qui avait donné la promesse que son peuple sera conduit dans le pays qui est, qui déborde de lait et de miel. C'est le même Dieu qui lui-même a fait en sorte que après que un ministère, c'est-à-dire l'appel, le ministère de l'appel à sortir, avait atteint son achèvement, c'est lui qui a fait en sorte que le prochain ministère soit établi pour conduire le peuple dans le pays de la promesse, pour le faire entrer. Auprès de Dieu, tout est en ordre, tout est ordonné, et c'est lui qui fera toutes choses merveilleusement. Il connaît la fin avant même le commencement. Il n'a jamais besoin, entre-temps, pendant le parcours, de prendre une décision. Tout le plan du salut de notre Dieu est déjà prédit à l'avance, est déjà conclu et clos, et tout s'accomplit tel qu'il a déjà voulu dans sa parole, dans son plan, avant même la fondation du monde. C'est merveilleux de ce que Dieu est assis sur le trône. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails des choses et parler de la fin des temps. Le temps est précieux, mais quand nous regardons en Israël, quand nous regardons au Proche-Orient, quand nous regardons autour de nous, et toujours de nouveau, nous pouvons simplement dire, comme notre Seigneur, dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Matthieu 24, verset 30, Marc 13, verset 26, Luc 21, verset 27 et 28. Je l'ai toujours dit, et cela demeure ainsi, nous ne sommes pas seulement à la fin des temps arrivés. Nous sommes à la fin des temps, et le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est réellement très, très proche. Et avec la parole d'introduction, et avec le dernier cantique encore, les versets juste qui s'ajuste à cela, c'est-à-dire d'Apocalypse, le chapitre 22. Ici, nous avons deux versets très importants. Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 10. Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps de son accomplissement est proche. Ensuite, la description suit de ce qui va se passer à la fin des temps. Les uns vont toujours plus se sanctifier, les autres vont toujours continuer à marcher dans leur propre chemin et leur propre pensée. Ensuite, au verset, au verset 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ensuite je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, versets 12 et 13. Maintenant arrive de nouveau l'importance prononcée concernant les croyants, donc nous concernant. Sauver ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, le verset 14. Le jardin d'Éden qui était dans le jardin, le jardin de la, le, pardon, le, l'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden, dont l'accès était fermé. Maintenant ici, l'accès est ouvert, comme il est dit, pour avoir droit à l'arbre de vie. L'accès est de nouveau ouvert. Maintenant ici, dans Apocalypse 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc il n'est plus exprimé, il n'est plus utilisé la parole église, mais épouse, épouse. Quand vous lisez les épîtres de Paul, il est toujours dit l'église, l'église, l'église. Christ, le chef de l'église, les églises, le corps, l'église, donc le corps du Seigneur. Mais ici, complètement à la fin, l'esprit dit, l'esprit. Et seulement ceux qui appartiennent à l'église épousent, reçoivent, acceptent, reconnaissent ce que l'esprit dit à l'église. Ce sont seulement ceux-là qui l'acceptent, qui le reçoivent, qui le croient. Et c'est à eux que cette promesse est valable. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre. C'est celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Celui qui entend. Encore aujourd'hui, tous nous connaissons l'histoire de la femme au puits. Le Seigneur lui a dit, donne-moi à boire. Et nous connaissons l'histoire. La réponse de notre Seigneur était, l'eau que je te donnerai sera en toi, deviendra en toi une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Une source est un puits. Ce n'est pas comme ça. Une étendue, un trou où de l'eau peut se rassembler. Mais une source, c'est avec pression. Ça jaillit. Et ainsi que Dieu puisse aujourd'hui puisse nous accorder sa grâce. Que nous puissions réellement venir à la source de la vie. Et que une telle effusion de cet esprit puisse avoir lieu, de manière que à nous cela jaillisse, se brise et jaillisse, comme une source, comme le jour de la Pentecôte, que d'être rempli de cet esprit. Cela était tellement puissant, d'une manière que la source a jailli, et que l'esprit pouvait s'exprimer comme il voulait. Et donner à chacun ce qu'il voulait dire. C'est ainsi que nous sommes dans le dernier âge de l'Église, dans la Odyssée, arrivés dans l'aps de temps, dans la Odyssée, où l'épouse est appelée à sortir et est préparée. À cela, je voudrais aller dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, pour vous montrer les versets parallèles du ministère de Jean-Baptiste. Ici, dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ici, nous avons de nouveau la parole envoyée. Un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu pour que les cœurs des pères de l'Ancien Testament retournent au cœur des enfants du Nouveau Testament. Cela a été confirmé dans Luc chapitre 1, verset 16. Et 17. Ensuite, donc Jean-Baptiste rend ce témoignage et dit, je suis que son précurseur, j'ai été seulement envoyé devant lui, devant lui. Le mot envoyé, nous l'avons bien compris. De l'autre côté, nous voyons le grand ministère qui ainsi a uni l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Luc 16, verset 16. Là, il est dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, et depuis le royaume de Dieu est prêché. Donc, c'était le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, le passage de toutes les promesses à leur accomplissement. Et maintenant, écoutez bien, Paul a dans toutes ses épîtres, pas une unique fois utilisé le mot épouse. Pas une unique fois. C'était autrefois, pas encore le temps. Écoutez bien ici, s'il vous plaît, dans le dernier, dans le prochain verset, ça c'était, maintenant c'est le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ici, il ne parle pas encore de l'Église, Jean-Baptiste. Il parle de l'épouse. Il est le précurseur. Il est celui qui est allé devant l'époux. Il est l'ami de l'époux. Il avait le devoir, n'est-ce pas, de préparer le chemin de l'époux et d'exécuter son ministère pour que époux et épouse puissent se rencontrer. Je le lis, le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause, une grande joie de tout son cœur à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelle profondeur est contenue ici dans de telles paroles? Allez devant le Seigneur en tant que précurseur. Époux et épouse, épouse et époux sont joints. Ensuite, la chose importante suit au verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a scellé, a confirmé, a certifié que Dieu est véritable, est vrai. Un témoignage doit être accepté et reçu pour que de notre côté, nous puissions confirmer la véracité de Dieu qui a donné une promesse et qui ensuite l'a accomplie. Ça, c'est le sceau. C'est ainsi que nous l'avons ici lu. Je le répète encore une fois, je le relis. Celui qui a reçu son témoignage a ainsi certifié, scellé, confirmé que Dieu est véritable, est vrai, et qu'il accomplit ses promesses, qu'il a envoyé le précurseur. Le ministère a été exécuté. L'ami de l'époux a entendu la joie, la voix de l'époux, le cri de joie de l'époux, et l'épouse a reçu, a entendu le message. Ensuite, au verset 34, il est écrit, « Car celui que le Seigneur a envoyé, que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie, il parle, il prononce les paroles de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Il n'interprète pas. Il a la parole de Dieu originale dans sa signification. Et c'est la parole originale qu'il a apportée. Car Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, mais dans toute sa plénitude. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Maintenant arrive. Celui qui ne croit pas au Fils, qui demeure désobéissant au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, la foi va ensemble avec l'obéissance, et l'obéissance va ensemble avec la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, reçu de Dieu, mais celui qui demeure désobéissant, il demeure séparé de Dieu. La désobéissance nous ramène au jardin d'Éden. L'incrédulité, la désobéissance, la transgression et la chute étaient présentes. Les hommes, l'humanité a été séparée de Dieu. Donc, nous voulons recevoir cela dans notre cœur, ce que Dieu dit ici. Bon, au cantique que nous avons chanté, à cela, je voudrais lire quelque chose, et cela des Saintes Écritures. Rappelez-vous, du texte, ce cantique, selon la mélodie, m'était connu du lointain, mais pas selon le contenu, selon le texte. Allume en moi ton feu. Lisons dans Luc, le chapitre 12, Luc, chapitre 12, à partir du verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Jeter un feu, allumer un feu. Jean avait prêché dans Jean 3. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Et le jour de la Pentecôte, aux 120, des flammes de feu ont apparu, qui se sont reposées sur chacun. Et l'Esprit de Dieu se sont reposés. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit s'est reposé sur chacun d'eux. Avec cette expérience, une séparation a lieu qui peut même aller sur par toute la famille, car les uns acceptent, reçoivent, les autres rejettent. Les uns croient et sont obéissants, se soumettent à Dieu et à sa parole. Les autres rejettent et continuent à marcher dans leur propre voie. S'il vous plaît, écoutez bien les versets suivants. À partir du verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Qu'il soit accompli. Verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Oui. On pourrait dire, bien-aimé Seigneur, lors de ta naissance à Bethléem, il a été dit paix sur la terre et aux hommes un bon plaisir. La meilleure traduction est paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. Pas comme ça une paix pour tous en général, mais la paix avec Dieu. Celui qui a trouvé la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, l'expérimente et réellement devient un enfant qui procure la paix, un enfant de Dieu qui procure la paix. Tous les autres sont contre le Seigneur et sont aussi contre nous. Subitement, on ne nous comprend plus. Jusqu'à là, tout allait bien, mais au moment où nous mettons consciemment du côté du Seigneur et que nous croyons sa parole et ses promesses et les acceptons, à ce moment-là, la séparation, la division a lieu, peut avoir lieu, est possible. Ici au verset 52, car de Luc 12, car désormais 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère, etc., etc. Oui, cela peut se passer. Cela peut même être possible que ça s'accomplisse. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Il s'agit de savoir est-ce que toute la famille accepte la grâce de Dieu, la parole de Dieu, ou alors est-ce que les uns l'acceptent et les autres la rejettent. Cela nous ramène déjà à la première prédication le jour de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 41, il est dit que tous ceux qui reçurent sa parole se laissèrent baptiser. Mais ceux qui la reçurent pas, se laissèrent pas baptiser. Mais ceux qui la reçurent, se laissèrent baptiser. L'obéissance a été liée à la foi. La prédication a conduit à prendre une décision. Personne peut rester neutre quand il écoute la prédication de la parole de Dieu. Alors, la décision est prise et que Dieu puisse accorder sa grâce. Que réellement la décision soit la bonne devant Dieu. Nous avons chanté « Allume ton feu, Seigneur, dans mon cœur ». Oui, et le Seigneur a dit « Je suis venu pour allumer un feu sur la terre ». Et le résultat du feu allumé est qu'une lignée passe entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Les uns comprennent, les uns ne comprennent plus les autres. Ça, nous l'avons en grande partie vu nous-mêmes et nous remercions Dieu de ce qu'il accorde sa grâce et que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Saintes Écritures, et tout le reste, nous le remettons entre les mains du Seigneur. Il y a encore quelques pensées importantes que nous voulons, que nous devons vous donner. Dans les Saintes Écritures, nous avons, n'est-ce pas, les thèmes sur tous les dons de l'Esprit, sur tous les ministères. Tout est décrit sur la divinité, sur le baptême, etc. Seulement, quand nous parlons du sujet de la divinité, si nous voulons parler du sujet de la divinité, nous n'allons pas le faire aujourd'hui, mais écoutons seulement deux versets des Saintes Écritures en ce qui concerne la divinité. Romains chapitre 3, verset 30. Romains chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, de ce unique et seul Dieu, on n'a pas le droit d'en faire une trinité, trois qui seraient unis. On n'a pas le droit, ça n'a pas le droit d'être. Il n'y a aucun homme sur terre qui aurait le droit de changer ne serait-ce qu'une seule parole de Dieu. Nous croyons au seul vrai Dieu Tout-Puissant qui, pour notre salut en tant que Père au ciel, dans son Fils seul engendré par lui, notre Seigneur, sur terre et à nous, par le Saint-Esprit, s'est révélé. Pour ainsi exécuter son propre conseil du salut et ne pas seulement accorder le salut, mais l'achever pour le jour, ne pas seulement donner le salut, mais l'achever dans les croyants pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Galatiens, où Paul entre très dans le jugement avec ceux qui se sont déviés de la parole et prêchent un autre évangile et un autre Christ. Et ensuite, il arrive dans Galates 3, au verset 20, à cette expression, à cette constatation. Galates chapitre 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, ce n'est pas aujourd'hui notre sujet. Seulement de savoir que la parole de Dieu le dit, et pas un frère aux États-Unis ou bien en Allemagne, mais que c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a révélé sa parole, donné sa parole en tant que règle pour notre foi, pour notre vie et pour notre enseignement. Nous a transmis sa parole comme règle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à nous soumettre dans le cadre de la mort de dans le cadre de la parole de Dieu et à demeurer dans le cadre de la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous lire ce que Dieu a reproché déjà autrefois alors que les apôtres étaient encore sur cette terre. Et comment est-ce que donc l'état de l'Église fut décrit dans Apocalypse, fut décrit dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Ça, je le lis ici parce que ici à cet endroit, nous ne pouvons pas tolérer ce qui n'est pas biblique. Nous devons appeler les choses par leur nom. Il ne s'agit pas seulement que nous puissions prêcher la parole, mais que ce qui n'est pas biblique, il faut que cela soit révélé. Dieu a fait ce reproche que dans deux églises, autrefois, cela n'a pas été fait. Et ce reproche, nous ne voulons pas permettre qu'il nous soit fait. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Je lis verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Mais avant le verset 17, il y a le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Maintenant, cela n'est pas adressé à l'Église, s'il vous plaît. Cela est adressé à l'ange à qui cela avait été adressé, écrit à l'ange. Cela est adressé à l'ange à qui cela avait été écrit. Mais j'ai quelque chose contre toi. Faisons mention de l'ange. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées, etc., aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche, etc. Ensuite, il est parlé de l'enseignement de la doctrine des Nicolaïtes. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. J'ai contre toi, toi qui as reçu ma parole et qui dois la transmettre à l'Église, j'ai contre toi que tu as toléré, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Des gens qui sont sous toi, tu as toléré, ils sont attachés à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. J'ai contre toi que tu aies toléré ça en tant que messager. Bien, frères et sœurs, cela n'est pas seulement écrit contre et pour représenter cela aux yeux de cette de ce messager de Dieu autrefois, ce qu'il a manqué de faire. Cela est adressé pour moi, cela est adressé pour nous, que nous n'avons pas le droit de manquer et de reprendre, de manifester, de révéler toutes ces choses qui ne sont pas correctes. Moi aussi, en tant qu'homme, malheureusement, je regrette d'avoir fait certaines choses qui ne sont pas selon les... qui sont pas... Je regrette. Mais quand c'est la parole de Dieu, la prédication, il faut qu'elle soit cristalline, clair. Il faut qu'elle soit la sainte parole de Dieu. Et avec tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, il faut que cela soit en accord total. Imaginez-vous un homme de Dieu, un messager de Dieu. C'est écrit au verset ici, au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Le Seigneur sait notre demeure. Il sait tout. Et ensuite suit le reproche. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Bien, mes frères et sœurs, cette parole va très profondément dans mon cœur. Je ne voudrais pas que le Seigneur me fasse un reproche, puisse me faire un reproche, doit me faire un reproche, que j'ai manqué quelque chose à cause de certaines personnes, à cause d'une certaine situation, j'ai pas osé dire la vérité, prêcher la véritable parole de Dieu, mais que je puisse librement prêcher la véritable parole de Dieu et pour servir, seulement pour aider, pas pour juger et condamner, mais pour tendre la main et pour aider. De la même manière, le même reproche concerne le prochain ange de l'église de Thyatire, ici à partir du verset 18, tel qu'il est écrit. Ensuite, nous lisons au verset 20, Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'homme de Dieu a manqué de le faire. Il a manqué, il a laissé cette femme comme ça faire ce qu'elle voulait. Moi aussi, j'ai manqué de mettre fin à cette chose. Et le plus grand reproche que Dieu, dans toute ma vie, m'a fait, était le 16 juin 1979, parce que j'ai laissé des choses, à cause de certaines personnes, je n'ai pas osé corriger et reprendre. J'espère que cela est à corriger, que c'est encore le temps de la grâce, nous le savons tous. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Enseigner et séduire. Elle enseigne. Nous savons tous que Dieu a établi dans l'église seulement les uns comme docteurs, mais jamais des doctoresses, des pasteurs comme des hommes, toujours des hommes en tant qu'évangile, et en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, mais jamais des femmes. Et malgré tout, que Dieu le Seigneur me pardonne, que Dieu le Seigneur fasse grâce, que Dieu le Seigneur nous aide à sortir, j'aurais presque dit, de cette situation que le Dieu fidèle puisse pardonner tout le passé et que nous puissions l'oublier et faire un nouveau commencement avec l'aide, la grâce de Dieu. Mais vous pouvez bien vous imaginer mon état. Je suis chaque parole qui est prêchée de tout mon cœur. Elle n'est pas seulement adressée à vous. Elle est tout d'abord, en premier lieu, adressée à moi. Mais si Dieu, dans sa parole, directement parle à l'un de ses serviteurs et dit, j'ai contre toi, tu as manqué de faire en sorte que cette chose-là cesse. Tu n'as pas pris cela assez au sérieux. Et ensuite, la même chose adressée au prochain messager. Donc d'abord, ici au verset 18 de Apocalypse 2 aussi, pour Thyatire et Pergame. Pour un messager de Dieu, c'est toujours facile de dire à l'église ce qu'elle ne fait pas correctement. Mais quand la parole, de cette manière, directement, est adressée à moi, autrefois, adressée à l'homme de Dieu, au messager de Dieu, alors vous pouvez bien vous imaginer ce qui se passe à moi. J'ai consacré ma vie au Seigneur et je lui ai dit que je serai fidèle, je demeurerai fidèle à l'appel jusqu'à la fin, jusqu'à que je passe de la foi à la vue. Mais ce sont des manquements qui se sont passés dans les années 76, entre les années 76 et les années 79, que je ne peux plus jamais réparer. Mais Dieu, et le temps est arrivé. Je me prosterne devant Dieu, je me prosterne devant l'Église et je demande à Dieu le Seigneur qu'il puisse nous accorder des yeux oints et des cœurs humbles pour ordonner tout à sa place correcte. Parfois, Dieu permet des choses pour qu'elles ne puissent plus jamais se répéter dans la dernière phase quand Dieu va accordé l'action surnaturelle, la dernière action surnaturelle parmi son église, dans son église. Je ne suis pas donc celui qui connaît les secrets de Dieu, mais je sais que Dieu le Seigneur ne vient jamais trop tard et que tout passe par lui et qu'au moment adéquat, il prendra soin pour tout. Au moment précis, il prendra soin pour tout. Nous nous tenons à la disposition du Seigneur et nous croyons qu'il accomplira toutes choses d'une manière merveilleuse. Maintenant, brièvement, quelques pensées de l'Épître aux Corinthiens et aussi des Épîtres adressés à Timothée. Tous nous savons que Paul avait déjà autrefois eu affaire avec des frères qui enseignaient d'autres doctrines, d'autres enseignements, qui avaient d'autres enseignements. Et ici, dans 1 Corinthiens, au premier chapitre, nous lisons au verset 1. Paul, appelé, donc 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Au verset 17, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Ce verset, je l'ai lu avec esprit pour vous montrer que ce verset est interprété par toute une dénomination qui est à peu près apparue du temps de John Wesley et dans le monde entier à des églises, des assemblées. Il se réfère à cette parole de Paul où il est dit ici, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et toute la dénomination rejette toutes sortes de baptêmes. Toutes sortes de baptêmes à cause d'une incompréhension, à cause de ce verset, de cette citation de Paul, qu'ils ont mal compris. Ici, Paul n'a même pas traité le sujet du baptême. Il s'agissait seulement qu'il était en train d'expliquer quel était son devoir principal avec lequel il avait duquel il avait été appelé. Baptisé pouvait le faire d'autres, Philippe, etc. Mais Paul avait le devoir d'annoncer l'évangile éternel, d'établir les enseignements bibliques. Il avait le devoir de dire à l'église ce que Dieu lui avait ordonné de dire, mais pas d'aller de ville en ville et de baptiser. Pour cela, d'autres frères étaient là. Mais un tel verset est employé de la mauvaise manière pour justifier qu'il n'est même pas nécessaire de baptiser. Et ça, c'est le problème. Et avec cela, je veux encore une fois insister et dire comme c'est dangereux de prendre qu'un seul verset biblique et de se référer à ce verset et de faire de ce verset ce qui s'ajuste au concept des gens. S'il vous plaît, jamais prendre qu'un seul verset biblique. Mais par exemple, quand il s'agit du baptême d'eau, allez aussi à Marc 16, allez aussi à Matthieu 28, allez aussi à Actes des Apôtres, chapitre 2, allez au chapitre 8, au chapitre 10 de Actes des Apôtres, allez à tous les versets bibliques pour avoir une vue d'ensemble sur le baptême, sur ce qui, sur la signification du baptême, pour pouvoir savoir que le baptême est nécessaire, est important, est biblique, et que tous ceux qui reçurent la parole de Dieu se laissèrent baptiser et se laissent baptiser. Imaginez-vous, réfléchissez pour une minute, pour un moment, toute une communauté évite tous les versets bibliques qui parlent du baptême et pas sans s'arrêter et ils disent, Paul l'a dit, s'attache à qu'une seule citation qui ne traitait même pas le baptême. Un autre problème est que les gens prétendaient qu'il n'y a pas de résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Simplement prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Oui, mais Qu'est-ce que ces gens-là même avaient à dire? En fait, rien du tout. Ils ont fait que, comme ça, eux parler dans l'air des 20 discours. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, parmi vous, pas quelque part à l'extérieur, mais parmi vous, il adresse cela à l'Église. Comment est-ce que parmi vous, quelques-uns disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et ensuite, le prochain verset, les autres ont prétendu, et j'ai répondu aux emails, il y a toute une communauté de foi où des vivants se laissent baptiser pour les morts. Et il se réfère à 1 Corinthiens 15, le verset 15, pardon, le verset 29. 1 Corinthiens 15, verset 29. 1 Corinthiens 15, verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Ou pourquoi se font-ils baptiser pour eux? C'est là seulement une constatation. Ici, Paul a seulement dit quel sens cela a de se laisser baptiser pour les morts. Ce n'était pas comme ça un conseil. Mais j'ai répondu à plusieurs emails très courts et fondamentalement, clairement. Il se réfère à ce verset, toute une communauté se laisse baptiser pour les morts. Seulement parce que ici, une remarque a été faite là-dessus, que autrefois cela existait. Il ne s'occupe même pas de tous les autres versets bibliques, mais il se fonde sur un verset qu'ils ont mal compris. Si ici, bien-aimés frères et sœurs, parfois, nous devons saisir certaines choses dans l'enseignement. Ce n'est pas seulement à cause de nous ici, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, pour montrer que un éclaircissement est nécessaire. Ce n'est pas possible autrement. Nous ne pouvons pas, comme ça, passer en laissant toutes ces choses qui sont enseignées et qui ne sont pas scripturaires. Même dans les jours des apôtres, c'est ainsi que nous pouvons le lire. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, Paul a de nouveau ici, a dû s'occuper de différentes choses qui étaient autrefois prétendues, c'est-à-dire que la résurrection des morts a déjà eu lieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, ici nous lisons à partir du verset 17 et 18. Et leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sont Hyménée et Philitée, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Si cela se serait seulement passé autrefois, j'aurais probablement pas eu besoin de lire ce verset. Mais cela en Virginie, mais arrivé aux États-Unis, qu'un frère qui, même une fois personnellement, avait écouté Frère Branham, subitement a prétendu que la résurrection a eu lieu. Et alors que je lui ai posé la question, mais écoute, dis-moi comment? Alors il m'a dit, les tombes étaient, les sépulcres étaient donc les dénominations mortes, et maintenant nous sommes sortis de ces sépulcres et nous sommes la résurrection. Je ne peux même pas dire ici tout ce qu'il a dit. Mais j'ai seulement pu dire au bon moment, s'il te plaît, ramène-moi à l'aéroport. Reconnu-moi la réponse. Il y a vraiment des esprits qui sont en chemin pour apporter du désordre et de la confusion et apporter des doctrines et des faux enseignements. Ce sont des esprits. C'est peut-être que les deux sont nos devoirs. Notre devoir. D'abord, prêcher la véritable, la prédication de la véritable parole de Dieu, le véritable enseignement. Et, mais ce qui n'est pas biblique et scripturel, nous ne pouvons pas simplement le tolérer pour ne pas qu'on puisse nous faire ce reproche. J'ai maintenant contre toi et j'ai à te faire ce reproche que tu tolères de telles doctrines parmi vous. Cela n'a pas le droit dans l'église du Dieu vivant, parmi ceux qui ont été appelés à sortir. Il n'y a plus rien qui a le droit d'exister, qui n'a rien à voir à faire avec la volonté de Dieu et la parole de Dieu et la volonté de Dieu et Dieu. Il faut que cela soit dit comme dans Actes des Apôtres au chapitre 15. Et avec, il faut qu'on puisse dire qu'avec cela, les paroles des prophètes s'accordent. Les paroles des prophètes s'accordent. Il faut que cela soit en accord avec les Écritures. Dieu est véritable, sa parole est vraie et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Ici, dans 2 Timothée, le chapitre 3, nous avons encore une description qui nous fait mal. Et ici, ce sont des personnes comme James et Jambres qui se sont opposés à la vérité des étant corrompus d'entendement. D'entendement, c'est comme ça que c'est écrit au verset 3, au verset 8 et 9 de 2 Timothée, chapitre 3. Mais auparavant, donc avant cela, Paul, dans le dernier verset de 2 Timothée, chapitre 2, a écrit et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ensuite, il conduit et il montre qui sont ces gens et ce qu'ils enseignent et en quoi est-ce que comme dans un piège par le diable, ils sont emparé et retenu. C'est peut-être comme ça que Paul a écrit dans 2 Timothée chapitre 3 maintenant à partir du verset 10. Pour toi, 2 Timothée chapitre 3 verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, de près ma conduite, de près mes projets, de près ma foi, de près ma douceur, de près mon amour, ma constance. Suivi de près. C'est ce que nous voulons aussi. Nous avons le modèle ici dans les Saintes Écritures. Nous voulons suivre ça de près. Et nous voulons suivre ce modèle-là de près. Ensuite, ici, dans 2 Timothée, le chapitre 3, toujours, à partir de verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Et ensuite, l'avertissement adressé à l'homme de Dieu. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure fidèle dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines. Est-ce que la parole de Dieu est devenue certaine pour toi? Est-ce que tu te reposes dans la véritable parole de Dieu originale, sans interprétation? Est-ce que tu te reposes dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as seulement entendu ou bien vu? Ou bien est-ce qu'en toi et avec toi, ces choses se sont accomplies? Est devenu une expérience personnelle. Bien, mes frères et sœurs, le temps est sérieux. Car tous ceux qui ne croient pas la parole de Dieu dans sa forme originale, dans sa signification divine, et la conservent dans cet état, dans cette forme, c'est ainsi que le diable pourra, d'une manière ou d'une autre, leur transmettre. Donc, comme cela a été déjà mentionné hier, et aussi avec 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11, le diable pourra leur infiltrer son interprétation. Ils tordent le sens et pour le rendre ajusté à leur façon de voir. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la dernière instance. Elle est l'absolu que Dieu nous a donné. Maintenant, lisons encore ce verset concernant l'édifice. 2 Timothée chapitre 2. Au verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Malgré toutes les fausses doctrines, les fausses les interprétations, les égarements, les déviations, malgré tout ce qu'ils font, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu, alléluia, le fondement solide posé par Dieu subsiste malgré tout cela. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et les siens sont bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jusqu'à 1 Timothée chapitre 3 verset 15 concernant l'Église, et c'est-à-dire ici, il est parlé de l'Église, il est dit de l'Église, 1 Timothée 3 verset 15, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est réellement la colonne, l'appui de la vérité. Et notre Seigneur a dit, elle porte la vérité. Je bâtirai mon Église et les portes de des mondes ne pourront pas contre elle. Bien aimés frères et sœurs, beaucoup de versets bibliques pourront être encore lus et observés. Nous voulons résumer ce que nous avons entendu. Dieu nous a accordé la grâce. Encore une fois, l'exemple, Jean 15, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Nous sommes issus de lui, comme terrestrement tous les fils et les filles sortent de leur père. C'est ainsi que nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, nés d'en haut pour une espérance vivante. Nous portons la vie de Dieu, la vie, la nature de Dieu par la nature divine par la grâce de Dieu à nous, nés de nouveau pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ensuite, mais il est aussi valable pour nous ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que le temps est arrivé où tous nous devons fermer les portes à tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Comme Paul l'a écrit, si quelqu'un s'amène, la parole s'amenait. 2 Corinthiens chapitre 11, si quelqu'un s'amène avec verset 4, 2 Corinthiens 11 verset 4, et vous prêchez un autre Jésus, et vous acceptez cela, vous tolérez cela. Non, nous ne tolérons pas ça, nous ne permettons pas ça. Non, et encore une fois, non, nous ne permettons pas cela. Ici, c'est Jésus-Christ, en tant que Seigneur, en tant que le Seigneur, en tant que le Rédempteur, en tant que l'agneau de Dieu, en tant que le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est prêché, celui qui est et celui qui était et celui qui vient. Ici, il y a seulement de la place pour Dieu, pour la parole de Dieu, et l'Église du Seigneur a le droit d'écouter la parole de Dieu claire comme du cristal dans sa forme originale. Tous les autres, qu'ils puissent marcher dans leur propre chemin. Cet endroit est consacré à Dieu. Nous attendons que le Seigneur confirme sa parole. Nous n'avons pas d'interprétation que nous avons prêché. Nous avons seulement que prêcher la parole de Dieu. Tout qui peut croire, combien peuvent croire que Dieu va accomplir encore les dernières promesses, accomplira les dernières promesses, et que tout ce que Dieu a dit est oui et amen, et que notre foi est ancrée dans les promesses de la parole de Dieu. Pas d'enseignement, pas de doctrine. Pas de doctrine à vouloir prendre la première place. Nous ne permettons pas cela. Seulement l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres. Seulement, et encore une fois, seulement sola scriptura, seulement les saintes écritures. Loué et exalté soit le Seigneur. Vous connaissez ma phrase. Celui qui est droit dans son cœur, il comprend tout de la manière juste, correcte. Je me réfère seulement à cette phrase de hier soir, alors que le frère Frank demandait, crois-tu que ici, je me tiens sous un ordre divin. Soyez sincères, la vraie foi peut seulement qu'être là où par une conviction intérieure. Nous savons que ici s'accomplit la parole de Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même qui est présent. Ici, ce n'est pas de la religion qui est faite ou bien de l'atmosphère qui est créée du charismatique, mais ici, le Seigneur lui-même bâtit son Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je n'ai plus besoin de donner mon témoignage. Il est connu de tous. Moi, frère Frank, j'ai entendu la voix audible, directe du Seigneur avec mes oreilles naturelles le 2 avril 1962. Je ne veux rien du tout, je ne prétends rien du tout, mais je dis simplement d'avoir été appelé de la bouche du Seigneur lui-même, audiblement, d'aller de ville à ville, de ville en ville, de pays en pays, pour prêcher sa parole. Pour prêcher sa parole. C'est peut-être la raison que devant des interprétations, je n'ai rien d'autre que du mépris et de l'erreur, de l'horreur. Ça n'a pas d'importance de qui tout cela vient et qui les fait. J'ai du mépris et de l'horreur devant tout cela. Car l'église épouse sera une église, une épouse parole sortie de la semence incorruptible de sa parole. Que Dieu Seigneur nous bénisse et qu'il soit avec nous et qu'il lève lui sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix, sa bénédiction et qu'il nous révèle sa puissance et sa gloire et nous accorde à tous sans exception la révélation par sa sainte et précieuse parole, par son Saint-Esprit. Et à tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle parmi nous, que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et sa parole, qu'elle ne revient pas sans effet, mais qu'elle produise l'effet pour lequel elle a été envoyée, cela jusqu'aux extrémités de la terre pour lesquelles elle a été prédestinée. Si c'est le message qui devait aller devant lui avant son retour, avant le retour du Christ, alors l'appel à sortir a lieu et la préparation. Donc en tant que précurseur, l'appel a lieu à sortir et la préparation pour le retour de notre Seigneur. Que notre Dieu soit loué de ce que nous avons la grâce d'avoir part à cette préparation dans sa volonté. Que son nom soit élevé et exalté. À tous ceux qui veulent se laisser baptiser, qui vont se laisser baptiser après cette réunion, ce culte, donc le baptême d'eau aura lieu et nous prétendons, nous allons de soi que tous ceux qui veulent se laisser baptiser sont devenus croyants et que vous avez, en tant que votre sauveur personnel, reçu Jésus-Christ et que le pardon des péchés, vous l'avez expérimenté et que vous avez trouvé la paix avec Dieu et que ainsi vous voulez faire l'alliance d'une bonne conscience avec le Seigneur et que vous pouvez faire l'alliance d'une bonne conscience avec lui, est enseveli dans sa mort pour désormais marcher en nouveauté de vie avec lui. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Amen. Nous nous levons et nous chantons ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Et ensuite, nous allons ensemble prier et ainsi conclure la première partie de cette réunion. Tel que je suis sans rien de moi.
Gottes Lamm, ich komme, ich komme.
Wir wollen unsere Hände erheben.
Nous voulons lever nos mains au cas où il y aurait une requête présente et prier ensemble notre frère de Hambourg. Je voudrais encore dire s'il a encore ce souhait qu'on puisse prier pour lui. Il peut rester. Nous allons donc encore prier et oindre d'huile en tant que frère, tel que la parole de Dieu le dit. Mais tous ceux qui maintenant, pas venir devant, mais qui ont une requête, levez brièvement les mains, courtement les mains. Oui, oui, partout. Partout, il y a encore des requêtes. Prions. Seigneur fidèle et Dieu, nous regardons au trône de la grâce. Bien-aimé Seigneur, je me prosterne devant toi et devant toute l'Église, que je n'ai pas fait attention à ce qui s'est passé, à ce qui s'était passé. Bien-aimé Seigneur, je te demande de réparer tout le dégât et de réparer tout le dégât et tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre tombés dans le piège du diable, qu'ils puissent expérimenter par la grâce de Dieu leur délivrance. Ô grand Dieu, je te remercie de ce que tu as parlé avec moi. Tu as parlé avec nous tous. Et tous, nous nous prosternons sous ta main puissante et te demandons que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous dans le monde entier et bénis ton peuple dans toutes les langues, dans toutes les nations et que tu puisses achever ton œuvre. Je te remercie de ce que nous pouvons expérimenter ce que tu fais dans le présent. Tu ne vas pas te mettre en demeurer en colère pour toujours et reprocher, mais tu feras grâce. Tu feras dominer la grâce. Que aujourd'hui la grâce puisse dominer en cet endroit. Fais-moi grâce et fais-nous grâce à nous tous. Glorifie ton saint nom et confirme ta parole. Loué et exalté sois-tu, ô Seigneur, maintenant et dans toute éternité.
Alléluia.
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 Et que tout le peuple dise Amen.
Amen.
Amen.